Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Il est 18h30, le rappel des titres avec vous Isabelle Millet.
Et les essais cliniques de l'un des vaccins expérimentaux les plus avancés contre le Covid suspendus, ils étaient développés par Oxford et par AstraZeneca. L'un des patients participant à cet essai a en effet subi un effet indésirable grave. Alain Coq, atteint d'une maladie incurable, accepte de se réalimenter après avoir voulu se laisser mourir. Il avait même écrit à Emmanuel Macron. Le gouvernement britannique a publié aujourd'hui son projet de loi révisant en partie ses engagements pris dans le cadre du Brexit, en violation assumée du droit international. La France dit se préparer à tous les scénarios. L'incendie dans le camp de migrants de Lesbos en Grèce, qui héberge plus de 12 000 demandeurs d'asile, l'Allemagne réclame en urgence une politique migratoire commune. Il se faisait passer pour le ministre des Affaires étrangères auprès de riches personnalités pour les escroquer. Deux faux Le Drian ont été condamnés en appel aujourd'hui à 7 et 10 ans de prison. L'11e étape du Tour de France, remportée sur le fil à Poitiers par l'Australien Caleb Ewan. Primoz Roglic reste en jaune.
Merci Isabelle, l'info revient avec vous tout à l'heure à 19h. La météo.
La météo sur Europe 1 avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Un service opéré par EPS, agréé CNAPS.
La météo avec des bonnes nouvelles en perspective, ça fait du bien. Le beau temps reste sur l'ensemble de la France, mais ça reste un peu agité dans le sud, à la différence de d'habitude.
Effectivement, c'est l'inverse. Cette fois-ci, Julien, et ça fait du bien pour une fois. Demain, il va faire beau sur presque tout le pays, avec en début de journée de la Bretagne à l'Alsace un ciel gris en passant par la région parisienne. Mais pas d'inquiétude, on se rassure, ça va se dégager demain après-midi. Dans le sud, nous aurons moins d'inverses. Bonne nouvelle là aussi, c'est sur les Alpes-Maritimes et la Corse que les orages vont se concentrer, et principalement sur les reliefs. Les températures, elles sont très douces. 11 à 20 degrés demain matin de Clermont-Ferrand à Ajaccio. Et dans l'après-midi, il fait un petit peu plus frais sur le nord-ouest avec 20 à 24 degrés et 26 à 32 degrés demain après-midi.
32 degrés, oh là là, que de... Qu'est-ce qu'on demande de plus, hein ? C'est pas mal, Anissa, 32 degrés.
C'est parfait.
Merci, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Il est 18h32, on est en direct, bien sûr, dans Europe Soir. Et c'est l'heure du débat des grandes voix, maintenant, avec à mes côtés en studio Catherine Ney. Bonsoir, Catherine.
Bonsoir, Julien.
Et Gérard Carrero, bonsoir à vous, Gérard.
Bonsoir, Julien.
La sécurité, encore et toujours, on en parle. Le gouvernement tenait aujourd'hui un séminaire sur la question. Cela fait plusieurs jours qu'on nous en parle. Des annonces étaient attendues, en tout cas, on le pensait. Eh bien, pas du tout. À la sortie, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a pris la parole. 12 minutes de compte-rendu de Conseil des ministres et finalement quelques mots seulement sur la sécurité, mais pas d'annonce.
Sur ce point, le président de la République a rappelé notre détermination et, nos objectifs. À avancer, je le disais, dans une logique de fermeté, humanité et fermeté s'agissant de l'ordre républicain et du patriotisme républicain, ce qui veut dire être extrêmement clair sur nos objectifs. Et nos objectifs, c'est des forces de sécurité rétablies dans leurs moyens pour pouvoir être présentes sur le terrain et pour pouvoir efficacement protéger les Français.
Voilà, ça fait peur, j'allais dire, Catherine Ney. Non, blague mise à part, s'agit-il d'une stratégie pour faire baisser la tension et l'attente chez les Français, parce que les médias, par conséquent, passent à autre chose et on parle d'autre chose, ou est-ce que c'est une erreur de com?
Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de com, et ce n'est pas Gabriel Attal qui va faire la com. Je crois qu'ils ont parlé pendant longtemps de la sécurité, mais pas seulement, parce que le président voulait aussi mettre en musique, de manière concertée, son discours du Panthéon, où il parle aussi d'égalité des chances. Arriver à l'égalité des chances d'ici la fin du quinquennat, moi, on demande à voir aussi.
Bon, oui.
Sur le séparatisme, il s'est dit beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore et qui va être égrené dans quelques temps. Mais sur la sécurité, on sait simplement que le monde, que le président a recadré Darmanin et Dupond-Moretti en disant « Cessez de faire des polémiques, ne créez pas de polémiques entre vous, il faut être un gouvernement à l'offensive pour la relance économique, l'actualité est assez dense pour donner du grain à moudre à l'opposition ». Donc il leur a dit d'arrêter la polémique, mais il sait très bien que le peuple a tranché puisque 70% des gens adhèrent au mot « ensauvagement » et que Darmanin a pris 11 points dans les sondages, voyez.
Gérard Carrero, votre point de vue sur cette non-annonce.
Bah écoutez, je crois l'urgence pour lui aujourd'hui, comme l'a dit Catherine, ça a été de faire de la politique. C'est-à-dire ne pas faire quelques annonces, il a toujours le temps de les faire la semaine prochaine, ou de les faire par tel ou tel, ou par le Premier ministre, les annonces concernant, je ne sais pas quoi, la lutte contre la polygamie ou contre les stupéfiants, etc. Mais il a fait...
un projet de loi contre le séparatisme qui est prévu pas tout de suite à l'automne.
Donc on a le temps de discuter de ça. Par contre, il a dû juger utile. On l'avait un peu compris à Clermont-Ferrand quand il avait fait son histoire de Kamasutra. Là. Il était un peu énervé. Il était un peu énervé contre les journalistes. Mais en général, quand on est énervé contre les journalistes, c'est parce qu'on sent qu'il y a des trucs qui ne vont pas. Et là, il a réglé un peu les choses avec ses ministres et avec les dirigeants qui étaient là.
Et on sait que Emmanuel Macron aime bien rester maître des horloges aussi. Oui. Peut-être a-t-il envie d'attendre avant de présenter ses mesures pour lutter contre l'insécurité.
Oui, mais,
est-ce que c'est possibilité, Gérard Carreau ?
Il a surtout eu envie d'aller vite pour mettre fin. Parce qu'on nous a fait un peu un numéro en nous disant qu'il n'y avait pas vraiment de différence entre Darmanin et Dupond-Moretti, que tout ça c'était complémentaire et tout. Sauf que quand le président de la République dit stop et signifie la fin de la récréation pour ces deux ministres importants, et comme l'a dit Catherine, il se trouve que dans la partie, il y a eu des divergences entre les deux. Moi je disais qu'il y avait deux lignes, il y avait bien deux lignes. Le président l'a compris aussi, oui. Et il dit maintenant c'est terminé cette histoire. Mais en même temps, il donne raison à Darmanin, puisque c'est Darmanin qui a l'assentiment de 70% des Français.
Est-ce qu'il y a une dynamique qui est enclenchée sur la prise de conscience gouvernementale de ce problème de la sécurité, Catherine Ney ?
Je crois, parce que déjà, lundi, il y a eu cette interview croisée des duettistes du ministère de l'Intérieur, qui sont Monsieur Darmanin et Madame Schiappa, d'ailleurs, qui disent « Mais nous sommes de la même génération, nous nous comprenons, nous avons le même âge, oui. Nous sommes nés en 82. » Mais donc, ils ont déjà annoncé toute une palette d'actions, notamment sur la drogue, mettre du bleu dans la rue, c'est-à-dire qu'il y ait des patrouilles, et puis surtout ces fameux chiffres qu'on donnerait chaque mois, alors que les statistiques existent déjà.
Oui,
hein.
Oui.
Alors,
donc c'est
je
de
sais
la
pas.
Com quand même, ça reste de la com.
Ah, ça c'est de la com. Oui. Ça c'est vraiment la grosse com. Bon, ce qui manque, c'est si demain, il y a, c'est la théorie pour la nouvelle règle de sécurité d'un pays. Comment fait-on si demain, il y a des manifestations, oui, comme il y a eu au moment des Gilets jaunes? Quelle est la doctrine de défense de la population et puis face à la violence?
Et en même temps, la question centrale...
Ça on ne le sait pas.
La question centrale, je vous pose la question à tous les deux, de cette séquence sur la sécurité qu'on sent monter, il y a une attente dans la population, vous l'avez rappelé tous les deux. Qu'est-ce que le gouvernement peut annoncer de plus? L'arsenal judiciaire existe, les réformes sont là. La police travaille. Qu'est-ce que le gouvernement peut annoncer de plus pour lutter contre l'insécurité ?
Je vais prendre un exemple. Il n'y a pas besoin de passer forcément de nouvelles lois ou d'annoncer de nouvelles lois. Il suffirait que le ministre de la Justice, évidemment, je ne suis pas sûr qu'il le fasse, mais il suffirait que le ministre de la Justice annonce que dorénavant, dans un certain nombre de cas bien précis, bien délimités, les actes de terrorisme, les attaques les plus sauvages, si l'on peut dire, que dans ces conditions, les gens, lorsqu'ils seront jugés et condamnés, il n'y aura pas de réduction de peine. Eh bien, je vous assure qu'une mesure comme ça, ça mettrait fin à cette idée que quand on prend 20 ans, on en fait 11 ou 12, et que quand on en prend 10, on en fait 5, etc.
Autrement dit, c'est des mesures... Est-ce que ça peut réduire véritablement sur le terrain l'insécurité? Est-ce que c'est dissuasif, la prison?
Est-ce que
la prison, c'est dissuasif? Parce que c'est cette question-là qui est posée derrière.
Alors la question, moi je suis de ceux, mais on peut être de l'avis contraire, je suis de ceux qui pensent que, quoi qu'on dise, la prison, c'est quand même dissuasif. En tout cas, ça a un mérite. Ça enlève des rues, ça enlève un certain nombre de malfaiteurs ou de criminels en puissance des rues de nos cités. C'est déjà un argument fort. Ça.
Alors, on continue d'en parler dans quelques secondes. 18h38, on est toujours en direct avec les grandes voix Catherine Ney ce soir et Charles Villeneuve, j'allais dire. Gérard Carreau, Charles Villeneuve n'est pas là ce soir. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on est toujours en direct ce soir avec les grandes voix, avec à mes côtés en studio à 18h40, Catherine Ney et Gérard Carreau. Et on parle ce soir de la réponse du gouvernement face à cette montée de l'insécurité et à ces faits d'insécurité qui inquiètent évidemment les Français. Un séminaire gouvernemental avait lieu aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à la sortie, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fait peu d'annonces, c'est peu de le dire. Il a annoncé une hausse du budget de la sécurité, mais c'est à peu près tout. On attend évidemment des annonces dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, on parlait de la réponse face à cette insécurité et notamment de la prison. Vous disiez, Gérard Carreau, juste avant la pause, il faut que les peines planchers reviennent au sein de la justice. Et on parlait du caractère dissuasif de la prison. Mais il y a aussi un autre problème. Frédéric Pechenard, qui a travaillé avec Nicolas Sarkozy, ancien patron de la police nationale, disait à l'instant, il n'y a pas assez de place dans les prisons.
Il a raison.
Il y a un numerus clausus dans les prisons qui fait qu'on ne peut pas condamner suffisamment de...
Il y a 60 000 places, il en faudrait au moins 80 000.
Mais vous comprenez que le temps de fabriquer les prisons... Mais
malheureusement, il faut 10 ans pour faire... Enfin, pas loin de 10 ans pour, entre le moment où on décide de l'implantation. Albin Chalandon, qui en avait, lui, construit, 15 000, mais il a mis un certain temps avant de trouver les sites, de négocier avec les départements, etc.
Catherine.
Oui, je crois que la philosophie, c'était que l'État doit protéger les gens et que ceux qui commettent des crimes ou des délits doivent être éloignés de la société pour un temps donné, mais à condition qu'ils puissent, en prison, ne pas devenir des bêtes sauvages, parce que quand vous enfermez, voilà, de se réinsérer, de réfléchir.
Et c'est ça aujourd'hui qui marche.
Ah ben c'est ça qui ne marche pas parce que quand vous mettez 6 personnes dans la même, avec les latrines au milieu, oui. Ben les gens qui sortent, les prisonniers, ils sortent, les voyous, ils sortent en étant des bêtes sauvages.
Oui, quoi. Et on rentre avec un CAP de voleur et on sort avec un bac pro de cambrioleur.
De terrorisme éventuellement. Voilà. Oui, c'est vrai. Donc il faut complètement repenser cette politique et ne pas craindre de construire des prisons. Et je crois que ce n'est pas du tout dans l'idée du garde des Sceaux actuellement.
Il est contre.
Donc, il est contre, alors que Emmanuel Macron n'a pas dit quelle était sa vision de la prison, il n'en a jamais parlé.
La prochaine étape sur cette question de la sécurité, c'est donc cette présentation à l'automne du plan de lutte contre le séparatisme. D'ici là, peut-on attendre d'autres annonces, d'autres prises de position de la part de l'exécutif sur cette question de la sécurité ?
Sur les stupéfiants, sur la lutte contre les stupéfiants, je crois qu'il va y avoir des choses, parce qu'ils ont, apparemment conclu que c'est quand même les stupéfiants qui provoquent
le trafic
et l'insécurité dans un certain nombre de d'endroits. Pas seulement d'ailleurs, comme on l'avait cru longtemps, dans les quartiers des banlieues, mais dans les quartiers de grandes villes de France, qui étaient des quartiers plutôt pépères et tranquilles, qui sont devenus maintenant des supermarchés de la drogue.
On est rentré en campagne politique, Catherine Ney, en ce moment.
Écoutez, on est rentré en campagne politique.
Il y a les européennes qui arrivent.
Il y a les européennes et curieusement, et les régionales. Les élections régionales.
Les sénatoriales, c'est en septembre.
Je dirais là, vraiment, les candidats En Marche n'ont aucune chance d'obtenir des postes de sénateur. En revanche, pour les régionales, c'est un gros problème qui est connu. C'est faute de candidats et de personnalités qui émergent. C'est la question qui placer face à Valérie Pécresse, qui face à Xavier Bertrand, qui même à Laurent Wauquiez. Donc, il y a des ministres, parce qu'il faut des têtes connues qui puissent éventuellement jouer un rôle et l'emporter le cas échéant. Et donc, le président a demandé à ses ministres d'être candidats et de se déclarer assez tôt pour être candidat au régional.
Pour prendre des risques. Il va falloir qu'ils prennent des risques. Parce qu'il y en a un certain nombre qui auraient trouvé tout à fait tranquille de ne pas être candidat. Parce que c'est vrai qu'il faut aller se les faire. Les candidats comme... tu as cité Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui avaient conquis de haute lutte leur présidence de région, il va falloir se lever de bonne heure pour aller les déloger. Et ça ne peut être que quelqu'un ayant une surface politique relativement importante, donc un ministre.
Et Valérie Pécresse a plutôt bien joué pendant le confinement et a bien tenu son rôle de présidente de région.
Elle était à ce micro ici même ce matin, dans la matinale d'Europe 1. On va marquer une nouvelle pause et puis on va se retrouver dans un instant avec les grandes voix Catherine Ney, Gérard Carrérou, et on va parler d'un tout autre sujet, mais qui traverse en ce moment la société française, le bien-être animal. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec le débat des grandes voix, on est toujours en direct évidemment dans le studio d'Europe Soir. Il est 18h48 avec Catherine Ney, Gérard Carrérou. Et on parle à présent du débat qui prend de l'ampleur sur le bien-être animal. La pétition lancée par plusieurs grands patrons en faveur d'un référendum, l'initiative partagée sur la question, rencontre un vif succès. 600 000 personnes l'auraient déjà signé. Et quand on regarde les sondages, c'est vrai que c'est une préoccupation qui fait consensus. On écoute l'un des initiateurs de cette pétition, Xavier Niel.
La volonté de cette cause, c'est d'aider le bien-être animal. Et nous, citoyens, prenons le destin de ces animaux, qui n'a pas été un sujet au cours de ces dernières années, et transformons-le en loi coercitive qui va transformer et faire avancer la société sur ce sujet.
Niel, partenaire du référendum initié notamment par le journaliste Hugo Clément. Alors dans ce référendum figure, pour être tout à fait concret, 6 mesures phares. Interdiction des élevages sans parcelles extérieures, interdiction des spectacles d'animaux, des élevages pour la fourrure, de la chasse à cour et de l'élevage en cage. Et c'est vrai que je disais que près d'un tiers des Français souhaitent une meilleure prise en compte de ce bien-être animal. D'où ma question, Catherine Ney, est-ce que sur ce sujet, les politiques ne sont pas en retard par rapport à l'opinion publique ?
Si, ils sont en retard contre, regarde le, parce que l'opinion, aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu des grands reportages sur, dans les abattoirs. Et d'ailleurs, vous avez vu que dans le plan de relance, on va améliorer les conditions d'abattage. Donc, c'est déjà une réponse politique, voyez. Sur aussi les élevages de poulets en batterie, les reportages s'enchaînent dans les chaînes sur les chaînes télévision qui fait
avec
que les gens...
Avec ces fameuses vidéos de l'association L214, notamment.
Ben voilà, et qui a fait un travail qui a apporté ses fruits, parce qu'il y a beaucoup de gens, même qui, lorsqu'ils achètent un poulet, sont culpabilisés, se demandent s'ils achètent le bon poulet. Or, c'est vrai aussi que depuis, on a retiré... Les grandes surfaces, en tous les cas, ont beaucoup maintenant... exige achète des poulets et vendent des poulets qui sont qui respectent les
avec
lois
le traçage, avec le traçage, avec une explication de l'origine.
Voilà. C'est sûr, c'est bien. Il y a des normes. Il faut maintenant des normes d'élevage. Bon, dans les propositions aussi, c'est interdire la chasse tout court.
Oui.
Or ça.
D'abord la chasse à court.
À court et après la chasse traditionnelle.
Après
la chasse traditionnelle. Or ça, si les politiques font attention et si par exemple il y a déjà 185,
ce n'est pas le chemin qu'a pris
185 parlementaires qui ont signé, alors qu'il en faut un cinquième, un peu plus quoi.
Il faut 185.
Il y en a 135 qui ont signé.
Oui,
pardon.
Il en faut 185. Et 10% du corps électoral.
Et vous remarquerez qu'il y a très peu de sénateurs qui représentent les territoires, qui défendent la chasse et qui signeront sûrement pas.
Alors, Gérard Carrérou, peut-être d'abord votre réaction sur cette sensibilité des Français. Je le disais, plus de deux tiers veulent une amélioration du bien-être animal. Alors, il y a plein de choses là-dedans.
Oui, non, mais ils ont raison. C'est pas normal qu'on puisse. J'ai vu la manière dont on écrabouille, si j'ose dire, d'une manière folle, 50 millions de petits poussins qui sont du genre masculin, je crois. Ou c'est le contraire. En tout cas, toi, qu'ils soient fille ou garçon, les poussins, c'est pas une raison pour les... C'est horrible. Il y a des choses... Mais on peut y remédier sur ces choses-là. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. De la même manière, effectivement, on peut réfréner les abattoirs. C'est bien. Mais par contre, ce que j'aime moins, c'est l'espèce de fourre-tout qui a été constitué pour le référendum d'initiative partagée, où on met des choses que moi j'aimerais conserver, que j'aimerais que dans mon pays on puisse continuer. Alors je sais qu'il y a un grand débat là-dessus, mais moi je me souviens de mes années d'enfance épanouies quand j'allais avec ma mère ou ma grand-mère voir les lions au cirque d'hiver, et c'est un spectacle fabuleux, interdire les animaux dans tous les cirques sous prétexte qu'il
y a... Mais même les cirques eux-mêmes en prennent le chemin maintenant.
Oui, mais je le regrette. Bon, la chasse à court, bon, à la limite, ça ne fait pas de mal à grand monde. Hein, c'est pas... Alors, ça fait plaisir à quelques aristos et quelques chasseurs.
Très peu de pratiquants.
Un million en France.
Mais ce qui est plus grave, c'est par exemple...
Un million de chasseurs, mais pas pour la chasse à court.
Ce qui est plus grave, par exemple, c'est les animaux, interdire les animaux pour faire des essais. Or, en une période où on cherche désespérément un médicament pour la Covid, je veux dire, on a besoin de faire des essais sur les animaux. Moi, si vous voulez, j'ai moins d'affection pour les rats ou pour les souris que j'en ai pour les chats, les chiens, les chevaux et tous ces animaux merveilleux.
Je confirme que moi aussi. Mais c'est vrai que ça fait mal au cœur quand on va au cirque et qu'on voit ces lions qui tournent un peu en rond, qui sont prisonniers entre quatre murs dans les cages.
Mais oui, ce sont des prisonniers.
Les delphinariums, par exemple. Alors, il en reste très peu. Il en reste encore, je crois, au parc Astérix et puis à Antibes.
Moi, je les aime, si vous voulez. Bon, quand je vois une...
Vous préférez pas les voir dans la nature, Gérard Carrérou ?
Mais on peut les voir dans la nature aussi. Mais attends, tout le monde, les riches peuvent aller faire des safaris en Afrique. Moi, j'ai été plusieurs fois faire, non pas que je sois riche, mais j'ai été une ou deux fois invité, y compris par TF1, à faire un safari au parc Kruger en Afrique du Sud. C'est un des plus... Là, on voit des lions à 5h du matin.
Le parc de Beauval, par exemple.
Oui, mais ça, c'est très bien.
Où ils ont l'espace pour gambader.
Oui, mais développer ces parcs-là, c'est formidable. Mais en même temps, je trouve qu'on pourrait demander dans les cirques d'avoir effectivement des mesures. Ils vivent pas mal dans les grands cirques, ils sont bien traités, les animaux. Il y a peut-être dans des petits cirques qui n'ont pas un rond, qui sont dans trois roulottes, peut-être qu'on maltraite un peu les animaux, mais beaucoup de gens ne maltraitent pas les animaux, il ne faut pas faire passer...
Non, mais il y a une approche philosophique qui n'est pas inintéressante derrière ce débat. Par exemple, pour les animaux domestiques, vous savez que vous pouvez aller en prison si vous maltraitez un chat ou un chien, mais rien ne se passe si vous maltraitez un cerf, une biche ou un lion. Philosophiquement, est-ce que c'est normal ?
C'est-à-dire qu'il faut aussi voir les choses comme elles sont, c'est qu'il y a une telle prolifération en ce moment dans les forêts des cerfs et des biches qu'ils font de tels dégâts sur les cultures que eh bien, l'ONF est obligé de, ben, voilà, de, oui. de faire des... Comme c'est pour les sangliers, c'est la même chose.
De réguler
quoi.
Les espèces.
De réguler l'espèce.
Oui. Bien sûr. Et puis l'élevage. Alors, il y a aussi dans la pétition, là, les six... Il y a aussi l'élevage intensif. Alors, où commence l'élevage intensif ? Oui. Et est-ce que les Français... Alors, est-ce qu'on fait le jeu des véganes et des lobbies qui veulent, par exemple, dire « Bon, c'est fini la viande, terminez la viande. » Alors, si la viande s'est terminée, on ne fera plus, effectivement. S'il n'y a plus de steak, c'est plus la peine, effectivement,
d'élever... Non, non, gardons les steaks.
Bon,
gardons
les steaks. Élevages intensifs. Non, je trouve que c'est très imprécis. C'est un mélange. Et puis, je vais vous dire une chose, pour terminer là-dessus, moi. Après les indigénistes, je n'ai pas envie de voir le lobby animaliste... se développer dans ce pays.
Bien, mais l'animalisme, c'est un peu autre chose.
Oui,
c'est l'extrémisme de la défense
des animaux.
Mais
c'est quand même les extrêmes. Hein.
C'est une philosophie qui dit les animaux d'abord, les humains après.
Ils attaquent les boucheries après.
Les animaux d'abord, les humains après. Là, dans la pétition, c'est quelque chose de plus mesuré et de plus rationnel, me semble-t-il.
Non, mais ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que ça soit trois grands patrons, Xavier Niel, dont on connaît...
Marc Simoncini.
Marc Simoncini, qui est le fondateur du site Mythique, et Jacques-Antoine Grandjean, qui était l'ex-patron de
VentePrivée.com.
Donc, c'est ça qui était original. Dans leur démarche.
Et
vous l'avouerez.
Absolument, et on continuera d'en parler. Merci Catherine, merci Gérard. Europe Soir continue dans quelques secondes.